Alors, on peut continuer le débat maintenant avec vous. Si vous avez des questions pour le permettre peut-être d'aller un peu plus en profondeur. Oui, Evelyne.
Alors, je parlais avec un Malbar, de justement, enfin, je me disais, quand on est chrétien, c'est difficile de se dire, ben, je vais faire la double pratique, parce qu'il le faisait lui-même. Mm-hmm. Donc, je disais, un chrétien, c'est quelqu'un qui croit en un Dieu, qui est trois, bon, mais c'est quand même un Dieu, monothéiste. Par contre, je me disais, de l'autre côté, l'hindouisme, on croit en plusieurs dieux. Donc, quelque part, si on voit du côté... En fait, je lui demandais comment il conciliait cette double pratique. Je me disais peut-être qu'il le voyait du côté de l'hindouisme. Ou Jésus, ben, c'est encore un gourou en plus, ou une forme de dieu en plus, quoi. Enfin, et je me demandais, en fait, comment vous deux, enfin, chacun avait votre position sur la double pratique à La Réunion, et comment, ou peut-être vous avez rencontré des gens qui en parlent, et comment ils en parlent en général. Enfin, moi, ça, c'est une question qui m'intéresse, quoi. Mm-hmm. Je trouve qu'on n'en parle pas assez pour comprendre un peu pourquoi ça existe.
Ouais. Je laisse le bavard. Oh, ouais.
une question très pertinente dans la prise, hein, ou... Donc, ce serait bien d'avoir l'éclairage de nos deux amis.
C'est arrivé d'abord pour dire que c'est parce que dans l'hindouisme, il y a plusieurs dieux, quelque soit accepté par nous, hein, il y a plusieurs représentations de même dieu. Donc, c'est tout. Parce qu'aucune personne intelligente ne peut concevoir plus d'un dieu. Parce que si cette dieu est infini, il ne peut pas avoir deux infinis. Et alors, c'est le même Dieu qui est représenté d'une autre façon, comme ça, et plusieurs formes, polythéisme arrive. Maintenant, on dit normalement le trois monothéismes, judaïsme, islam et christianisme. C'est faire un jour, je crois, tant de personnes hindoues qui ne croient pas vraiment à plusieurs dieux, mais plusieurs manifestations.
Alors, je crois que Père Vara a bien répondu, je dirais, entre guillemets, à ma place, parce que il est aussi compétent pour... Alors, je crois qu'il y a... Comme je disais, il y a trois niveaux dans la religion, dans la spiritualité, principalement dans la religion. Primaire, secondaire et supérieure. Une fois, j'étais invité à l'église de Saint-Paul pour parler de l'hindouisme aux catéchèses. On dit aux catéchistes. Et puis je leur disais, bon, d'une façon un petit peu peut-être provocante, ben vous aussi les catholiques, vous êtes polythéistes. Alors bien sûr, les gens commençaient à me regarder de gros yeux en disant, ce soir Mila, qu'est-ce qu'il va nous raconter encore? Je dis oui, vous avez la Vierge Noire, Notre-Dame de l'Arbre, Notre-Dame de la Paix, Notre-Dame, toutes les... On sait très bien que toutes ces formes de Notre-Dame symbolisent bien sûr la Vierge Marie, ou c'est un aspect de la Vierge Marie. Alors, c'est pour ça que j'insiste à La Réunion pour qu'on traduise en français la signification des mots. Et lorsqu'on a la signification des mots, ça donne une nouvelle dimension à la vision. Dans l'hindouisme, en réalité, il n'y a pas de représentation du Brahman, ce qu'on appelle Brahman, qui est l'absolu. On ne peut pas représenter l'absolu. Mais il y a des représentations, des aspects de cet absolu, la bonté, la beauté, etc. Après, autre chose, dans l'hindouisme, quand on parle de l'hindouisme, c'est comme si on parlait du christianisme. Il n'y a pas une seule école dans le christianisme. Pareil dans l'islam, pareil pour le bouddhisme, pareil dans toutes les grandes traditions. Et donc, l'hindouisme étant habitué à avoir une variété d'organisations, je dirais quelque part, rajouter une organisation en plus, entre autres l'Église catholique, pour les hindous de La Réunion, par rapport à l'histoire, il y a aussi l'histoire, l'engagisme, etc., qui va tenir compte de ça, qui va rentrer en ligne de compte. Donc, ça ne va pas vraiment poser de problème. Mais en même temps, est-ce qu'on veut suivre les règles de l'Église? Parce que si on est dans l'Église, on doit suivre les règles de l'Église. Ou alors, est-ce qu'on est, on ne suit pas les règles de l'Église? Donc, je crois qu'il y a ce choix à faire entre suivre les règles de l'Église, l'hindouisme n'ayant pas de règles absolues. Parce qu'il n'y a pas une seule organisation. Et parfois, bon, toujours de manière un petit peu provocante, je disais, imaginez que vous êtes au PCR, pour parler de politique actuelle, et vous allez voter UMP. Bon, ça c'est exagéré, je sais, Enfin, pour faire comprendre que si vous êtes dans une organisation, il y a les règles de l'organisation. On doit suivre ces règles de l'organisation. Et en dehors de l'organisation, si vous êtes en dehors de l'organisation, ben, vous suivez les règles que vous voulez. Alors donc, il n'y a pas une constitution hindoue en tant que telle, parce que ce n'est pas qu'une religion.
D'autres questions ?
Pas une question, mais une réflexion.
Oui.
On peut rebondir. Là, ce qui est frappant, c'est de chasser croiser des origines et de l'histoire. Alors, si on prend une photo, là, on publie ça au niveau de l'Europe, là-bas. On va dire, mais qu'est-ce qui se passe, là ? Alors, on a un hindou qui est blanc métissé, et on a un jésuite qui est noir. Et on fait malbar.
Prête malbar.
Oui. Et je disais, Swamiji, voilà, l'hindouisme donne une vision, c'est pareil aussi pour le chrétien. On a une conception du monde, ça donne. C'est pas seulement la religion, ça engendre une anthropologie, une manière de se situer entre les personnes, dans l'espace et dans le temps. Et il y a la dimension de la personne, la dimension corporelle, Varas ou Messin. Et tu posais la question de l'au-delà, ce qu'on devient après. C'est là où la notion de personne est fondamentale pour le christianisme, parce que la personne est unique et elle va rester personne après la mort, et la dimension de la résurrection, c'est-à-dire la dimension corporelle, n'est pas abolie, elle est transfigurée. Et nous avons souvent des simplismes, il faut clarifier le langage, comme tu disais, parce que c'est pas seulement une question de règles, c'est pas une question de normes, c'est fondamental. Si j'appartiens à un groupe, ce groupe a ses règles. Mais c'est véritablement une adhésion fondamentale sur deux visions différentes et sur une relation à Dieu et à l'au-delà qui est conçue de manière différente. Je pense que c'est fondamental. Et pour la question de la chasteté, moi je répondrai comme Swamiji en élargissant le regard. Fondamentalement, voilà, d'accord, ok, mais dans le christianisme, la chasteté s'applique aussi au mariage. C'est ce que tu disais. Bon. Donc le mot chasteté, c'est pas le célibat.
Voilà.
La chasteté, c'est le vivre la dimension de sa personne et de sa sexualité dans une vision qui correspond, je dirais, à un appel et à une réponse. Alors, il peut y avoir des failles dans une vie, mais cette dimension, je dirais, de l'adhésion à la chasteté, elle est valable tant pour la personne mariée que pour le célibataire, avec des vocations différentes. Mais le don absolu, chasteté, se conjugue avec le célibat pour une vie consacrée, ce qui est différent. Voilà le...
Si l'on prend le mot Advaya, c'est intéressant. Advaya, ça veut dire vraiment non-dualité. Dvaya, deux. Advaya, a privatif. Non-dualité. D'accord. Et donc, dans l'hindouisme, tant que je connaisse, il y a une manière de voir même la fin de notre vie sur cette terre, une façon. Il y a plusieurs façons dans l'hindouisme pour voir. Et donc, après cette vie, qu'est-ce qu'on arrive à voir un individu ? Est-ce que je suis englouti, résorbé dans une totalité, ou bien je reste distinct ? Donc, même dans l'hindouisme, il est dit, il y a deux façons, être absorbé complètement. Donc, on perd son individualité. Et donc, Shankara Ramanuja, Ramanuja veut dire, nous sommes distincts de Dieu pour pouvoir goûter Dieu. une goutte de miel ne peut pas savourer un pot de miel. On doit être non-miel pour savoir du miel. Et donc, on ne peut pas tout à fait tomber dans Dieu, donc il n'y a pas de vraiment félicité. On doit être différent, donc il n'y a pas une résorption de la lettre à la fin de notre vie. Nous restons une personne. C'est pourquoi on fait venir le mot grec « personne » pour pouvoir expliquer qu'est-ce que c'est sur la terre et même après la mort, quelle est ma joie avec un Dieu qui est distinct. Je suis uni, mais pas absorbé.
Pour rebondir sur ce que vient de dire le Père Barard, qui est un prêtre catholique qui donne de l'enseignement hindou dans le sens philosophique du terme, et d'ailleurs, ce n'est pas surprenant. Souvent, à l'ashram, on récite des versets, et à la fin des versets, il dit Shivalo kamavapnoti, shivena sahamodate. Shivalo kamavapnoti, c'est-à-dire, on va obtenir le monde de Shiva. Shivena sahamodate. Avec Shiva, on va être heureux. Et je dis aux gens, est-ce que vous êtes pressés d'aller rencontrer Shiva? En général, personne n'est pressé d'aller rencontrer Shiva. Parce qu'on veut garder, c'est effectivement cette identité. Alors, comme disait le Père Vara, il y a ce terme « personne » qui est repris du grec, mais dans le sanskrit aussi, le terme « purusha » que l'on utilise aussi. Et comme dans l'Inde, et dans l'hindouisme, il y a X courants philosophiques, etc. Nous avons des courants non-dualistes à laquelle j'appartiens, nous avons aussi des courants dualistes. Des courants dualistes, comme il vient de l'expliquer, là c'est encore un courant semi-dualiste, un courant dualiste qui dit que après la mort, on va aller dans le monde de Shiva, ou dans le monde de Vishnu, ou dans le monde de Krishna. Si vous regardez les Hare Krishna, eux ils sont dualistes. Il y a Krishna qui est Dieu, et nous sommes des dévots. Et à aucun moment, on va devenir absorbé dans la totalité. Après, il y a les problèmes de réincarnation, ça, c'est un autre débat.
Je voudrais revenir, moi, par rapport à justement ce qui vient d'être évoqué par rapport à la double pratique. Bon, il a été souligné, Monseigneur vient de le faire, là, qu'il y a, pour le croyant, du point de vue chrétien, une question de cohérence. Cohérence interne par rapport à sa foi, par rapport à sa vision du monde, à sa vision spirituelle. Mais est-ce que... Bon, certains pourraient dire, mais ça, finalement, c'est intellectuel. Et est-ce que, de la part de ceux qui ont cette double pratique, est-ce que cette cohérence est importante? Est-ce que c'est pas d'abord, je dirais, une pratique populaire, disons, qui attribue à Marie, à Jésus, à Maria même, à Shiva, à Vishnu, à Krishna, une égalité de relations et de grâces reçues à travers eux. Je ne sais pas.
Je crois qu'il y a aussi le problème de la formation. La plupart des hindous, que ce soit à la Réunion ou en Inde, n'ont pas forcément une formation religieuse. D'hindouisme, il n'y a pas de catéchisme ou bien pas de médersa. Ou alors, c'est réservé aussi aux castes supérieures, par exemple, ce qu'on appelle le Veda Paratashala, c'est-à-dire les écoles védiques, en Inde, sont réservées aux brahmines, à la caste des brahmanes, à la caste des prêtres. Donc, la masse n'a pas d'éducation religieuse, mais il y a la tradition. Et souvent, à la Réunion, ce que l'on entend aussi, c'est cette idée, mon père et mon grand-père faisaient comme ça, donc je fais comme ça. Bon, j'ai été baptisé à l'église, donc je vais aussi baptiser mon enfant à l'église, ou bien je vais faire les funérailles de tel parent à l'église, mais avant d'aller à l'église, il y a des rites domestiques à la maison. Ce que j'appelle les rites domestiques, pour reprendre un petit peu ce qu'on avait vu dans la communauté chinoise. Il y a des rites domestiques qui vont être faits à la maison. On ferme le cercueil, on amène le cercueil à l'église, il y a le rite catholique à l'église, parce que ça se passe en général avec l'église catholique et puis l'hindouisme. Le prêtre, bien sûr, fait comme s'il ne voit rien. On enterre la personne. Au cimetière, avant d'entrer dans le cimetière, on refait des traditions, des pratiques de l'Inde hindoue. Et puis le lendemain, ben, on va verser le lait. Le 8e jour, on va faire les cérémonies. Le 16e jour, 15e, 16e jour, on va faire ce qu'on appelle le karumadi, c'est-à-dire on va faire les rites hindous, on va se raser la tête, etc., etc. Donc il y a ce qu'on appelle l'héritage ancestral, mais qui n'est pas très loin dans le temps. Ça remonte, grand-père, grand-mère, à la rigueur, il y a grand-père, il y a grand-mère. Parce qu'à l'époque, bon, il y avait une situation politique à La Réunion et sociale aussi à La Réunion qui faisait que, ben, quelque part, il fallait devenir catholique. Et donc, on devenait catholique en apparence, mais tout en gardant les rites qu'on pourrait appeler domestiques. Donc, ça se fait à la maison. Et puis maintenant, ben, on prend ça comme, très pas forcément excuse, mais comme validation pour dire, ben, il n'y a aucune raison. Moi, je connais des enfants qui viennent à l'ashram au cours, et puis, évidemment, le papa me téléphone en me disant, ben, il ne peut pas venir parce qu'il va au catéchiste. Ça, c'est la pratique locale. Donc, il n'y a pas cet approfondissement de la foi comme il y aurait dans le catholicisme, du côté hindou, en tout cas, à La Réunion.
La question évoquée par le Père Isaïe, question de cohérence dans notre vie, cohérence intérieure pour chaque personne. Est-ce que je suis dans le droit chemin quand je mélange les choses? Hein, par exemple, que le Christ est le Fils de Dieu, éternel. Ça, et puis on dit il y a plusieurs personnes similaires au Christ, donc on peut adorer cette personne, ce Dieu, cette déesse, etc. Et donc il y a une manière de saisir le mystère de Dieu et incarnation de Dieu. Ce n'est pas, donc, dans l'hindouisme, on parle de avatar, Dieu devient de temps en temps sur le monde. Il n'assume pas vraiment la nature humaine, mais il vit pendant quelques moments, il s'en va. Tandis que le christianisme affirme que le Fils de Dieu, c'est-à-dire dans trois personnes, d'une personne, a assumé notre nature. Tu as pris chair dans le corps d'une vierge. Et puis tu as souffert, tu es mort et tu es ressuscité. Donc, est-ce que, en affirmant cela, en même temps, est-ce qu'on peut dire que Dieu, que la déesse aussi exprime Dieu? Je ne crois pas. Donc, la question de cohérence.
C'est la dimension de la formation, la dimension de l'approfondissement. Le chapeau religieux, mais sur la double pratique, ça mériterait une soirée particulière. C'est tellement riche. Et puis, comme sujet, en même temps, on a une vision du côté chrétien, simpliste et parfois caricaturale de l'hindouisme. Parce que des pratiques ont été aussi mêlées. Hein. Et tu me corriges si je me trompe, Swamiji. Je pense qu'il est faux de parler de polythéisme au sujet de l'hindouisme. Ça a été une position philosophique et même théologique pendant un certain temps, mais aujourd'hui, on ne peut pas tenir cette position. Parce que quand on creuse l'approche, on voit très bien que Aum, Dieu est unique, c'est l'origine et c'est la fin en même temps.
Ouais, il est dit, dans la Bible, c'est la phrase bien connue, le Verbe s'est fait homme, et on retrouve dans le texte de Upanishad, Om iti Brahma, Om, donc le Verbe, c'est Brahman, c'est l'absolu. Donc c'est la même idée, je dirais, qui se retrouve. Et après, bon, le problème, je crois, c'est principalement l'éducation et l'approfondissement. Lorsqu'il n'y a pas d'éducation, malheureusement, dans les temples à La Réunion, il n'y a pas d'éducation religieuse. Ben, comment approfondir s'il n'y a pas d'éducation? Donc on reste toujours au niveau des cérémonies, on assiste aux cérémonies, mais on participe très rarement aux cérémonies dans l'hindouisme. Et alors que du côté chrétien, quels que soient les courants chrétiens, il y a vraiment participation, je dirais, déjà au niveau de l'utilisation de la langue. À La Réunion, bon, les gens ne parlent pas vraiment les langues indiennes, que ce soit encore moins sanskrit et tamoul, entre autres, et alors que les rites chrétiens, protestants, catholiques, entre autres, sont faits en français, en créole, etc.
D'autres questions?
J'aimerais une vision simpliste de l'hindouisme qui est due au fait qu'à l'école, on nous apprend la mythologie grecque. Voilà. On voit les polythéistes et tout ça. Et bon, pour moi, bah, en fait, il y avait une mythologie indienne Et forcément, et
ben, hindou.
les hindous, ben voilà, et ben, ils étaient polythéistes. Et on ne l'a jamais expliqué.
En apparence, oui, en réalité.
Il y a expliqué. Par contre, il y a une autre question que je me pose, c'est est-ce que l'Église catholique ne devrait pas justement, et peut-être les hindouistes, enfin, se réunir pour justement clarifier les choses un peu? Non, mais pour clarifier,
Pour l'Église catholique, pas de problème. Il y a responsable de l'Église catholique, mais pour les hindous.
Non, mais c'est ce qu'on fait un peu en période.
Voilà,
on fait un peu de taille dans le catéchisme, on retrouve le dialogue interreligieux. Mm-hmm. Hein. Et puis aussi les petites écoles de la foi. Moi-même, j'ai participé à ces petites écoles de la foi, et notamment sur le sujet de la double pratique. Je suis allé au Coinlou avec Daniel Mignon-Poulet pendant 2 heures de temps. On a discuté avec les représentants de chapelle, comme on dit, pour justement. Il y a toute la dimension historique, la dimension culturelle, ce que tu as évoqué, c'est-à-dire une religion officielle, bon, avec en même temps beaucoup aussi de schémas sur cette religion officielle. D'où l'importance de pouvoir discuter, de se dire les choses, de dire, bon, qu'est-ce que tu mets sous les mots, voilà, bon, et reconnaître le cheminement. Mais aujourd'hui, justement, arriver à, pour reprendre le mot d'Isaïe, un choix cohérent, tout en reconnaissant le cheminement de l'autre et ce qu'il y a de valeur dans l'autre. C'est fondamental. Et pour les chrétiens, le dialogue interreligieux n'est pas, pour nous catholiques, le dialogue interreligieux n'est pas une option parmi d'autres. Ça fait partie de la dynamique de notre foi. Parce que Jésus dit, nul ne va au Père que par moi, c'est-à-dire nous connaissons Dieu la plénitude de la présence de Dieu dans l'être humain par cet homme Jésus qui a une chair humaine. Bon, voilà, nul ne va au Père que par moi. Là aussi, il faut voir ce qu'on met sous la notion de Père. Hein, bon. Mais il y a l'autre phrase, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, c'est-à-dire nul n'est exclu de l'amour de Dieu. Mais savoir que l'être humain dans sa chair est immortel et que son corps ne sera pas détruit et que dans mon corps il y a un corps que je ne vois pas, qui est mon corps de ressuscité, ça c'est la parole du chrétien. Donc le dialogue interreligieux n'est pas une option parmi d'autres, il fait partie de ma foi et de la relation à l'être humain qui croit d'une autre manière que moi ou qui ne croit pas.
Je crois aussi au niveau des termes, bon, fois arriver à faire évoluer non seulement les termes gourou, etc. Bon, ça, malheureusement, c'est déjà ancré dans les esprits. Et je crois aussi qu'il y a un autre terme qu'il faudra, ne serait-ce localement, faire évoluer. Après, bon, ailleurs, on ne peut pas contrôler ce qui se passe ailleurs. C'est le terme les religions du livre. Quand on dit les religions du livre, ça exclut les autres religions, sous-entendu que les autres religions n'ont pas de livre. Quelque part, c'est ressenti comme ça, en tout cas. Et alors qu'on sait très bien que l'hindouisme a des textes aussi anciens que l'Ancien Testament et beaucoup plus vieux que le Coran. Et donc, je pense qu'il faut parler des religions, des livres. Je crois que ça serait plus noble, plus juste que la religion du livre. Même s'il y a une signification de dire ça, mais le ressenti, quelque part, c'est mal ressenti.
Swamiji est tout à fait d'accord, d'autant que le chrétien ne se reconnaît pas dans cette appellation. Parce que ce qui caractérise le chrétien, c'est pas le livre, c'est la personne même du Christ. Et incarnatus est, et le Verbe s'est fait chair. C'est Dieu qui se fait zarx, qui se fait chair, et qui est un scandale pour beaucoup. Comment Dieu, le Tout-Puissant, le Très-Haut, l'Infini peut se ramasser dans un être humain, dans une chair humaine, ben, je dirais que c'est le scandale du christianisme, ça.
Autrement, je me fais un doux, là, dans ce sens-ci. C'est que lorsqu'on fait, pour prendre le mot, mais reprendre le mot français dans le contexte réunionnais, la consécration du temple, bon, et quand on arrive au bout, on va voilà, énergiser le temple, c'est-à-dire toute l'énergie
est insufflée
dans le temple. Bon. Mais c'est ce qui se passe dans la dimension du baptême, c'est-à-dire toute l'énergie de Dieu, tout l'Esprit Saint, par la médiation du Christ, passe dans la chair humaine et fait que cette chair humaine est énergisée pas seulement pour sa vie terrestre, mais est énergisée pour l'éternité. Donc là, il y a quelque chose à creuser sur cette dimension-là.
Puis aussi le débat sur les avatars, qui est aussi, à mon avis, pas bien compris en profondeur, dans le sens où c'est vrai que dans l'hindouisme, on présente 10 avatars, 10 manifestations de Vishnu, pas le film. Bon, avatar, veut dire effectivement descendre. Descendre, ça veut dire de l'infini vers le fini. Et on, ça, c'est pour votre information. On n'est pas là pour en conversion, mais en information. Il y a deux sortes d'avatars, ce qu'on appelle Purna Avatar. Ce sont les avatars connus, entre autres Krishna, Rama, etc. Et puis Amsha Avatar. Amsha Avatar, ce sont les avatars partiels. Et nous sommes des avatars partiels, c'est-à-dire des manifestations partielles de ce suprême. Donc le divin est toujours présent. Mais comme nous, on a des pouvoirs intellectuels, physiques, etc., limités, donc on est des avatars partiels. Et lorsque le suprême se manifeste avec toutes ses qualités, d'infini, on va dire, amour infini, connaissance infinie, etc. Donc là, on parle de Purna Avatar, c'est-à-dire de manifestation plénière, totale. Sinon, je viens de connaître Louis.
Juste une dernière remarque.
Oui.
Excusez-moi de monopoliser la parole, mais en fait, au niveau de la double pratique, voilà. Si par hasard, un lama est musulman et que sa maman ou son papa est chrétien, bref. Ben, il a l'occasion de découvrir les deux religions. Pourquoi un normal qui est mal barre, il ne va pas pouvoir découvrir les deux religions pour choisir son chemin, quoi. Il peut, non, mais après les prêtres vont dire un coup.
Non, ça, c'est un argument avancé aussi.
Ils sont comme ça, mais je trouve que ça ne se pose pas dans le cas d'un couple mixte musulman-chrétien, alors que ça va...
Mais ça se pose aussi dans le cas du couple mixte musulman-chrétien, la cohérence et la liberté.
Oui, de toute façon, mais il découvre les deux chemins pour pouvoir choisir le sien.
Mais il va d'autant plus découvrir qu'il est sur les deux. Mais il ne peut pas marcher sur deux chemins en même temps. C'est ça.
Pour moi, il faut choisir.
Et ça, c'est le débat de la double pratique.
Voilà, double pratique.
Écoutez, le débat était riche, je pense. Voilà. Deux témoignages qui arrivent à susciter un débat très, très profond et puis très, comment dire, encore très présent dans notre société réunionnaise. Peut-être ça aussi, les objectifs de cet atelier. En tout cas, nous remercions Père Varin et puis Swami Eloyananda de leur témoignage. Et nous savons combien ils sont précieux dans notre société réunionnaise, tout ce qu'ils apportent, non seulement au groupe du dialogue interreligieux, mais aussi à leur tradition religieuse respective et aussi à la société réunionnaise tout entière. C'est pour ça que notre prière ce soir en terminant, c'est que Dieu leur accorde encore longue vie parmi nous. Ils ont encore beaucoup à nous apporter, à nous donner. Alors, en tout cas, merci à vous aussi. Hein. Alors, je pense qu'on a prévu, avant de se quitter, de prestations musicales ou chorales, je ne sais pas trop. En tout cas, il y a un instrument de musique qui est là.
Un instrument de musique.
Oui, ça va pas être très long, alors on vous demande encore quelques minutes d'attention.
Juste quelques minutes.
Voilà. Donc, encore un cadeau pour nous.
Alors, je vous préviens, quand je suis en public, je fais énormément d'erreurs. Alors donc, vous pardonnerez.
Je fais des erreurs et en marge vers la perfection.
Je vous présente mon épouse, donc il y a un problème de climat et de...
Je précise,
c'est... Alors, donc, c'est un instrument qui s'appelle une Vina, en anglais V-E-E-N-A, mais on peut écrire aussi V-I-N-A. Alors, c'est un instrument du sud de l'Inde, qui à mon avis est peut-être l'ancêtre du sitar. Le sitar étant fait en calebasse, et ça c'est fait en bois de jacques, de jacquier en bon français. Et malheureusement, à La Réunion, il n'y a pas grand monde qui joue de cet instrument. Il y a, à mon avis, deux personnes. Il y a deux personnes qui sont en train d'apprendre à l'heure actuelle à l'aéroport, pas la femme, mais au centre de musique et d'antique, dans les grands cas d'antique. Alors, cet instrument n'a que quatre cordes principales et trois cordes qui servent pour la mesure. Vous voyez, c'est un bel instrument et il pèse un petit peu son poids aussi en même temps. En général, on joue assis bien assis par terre, mais là, pour des raisons pratiques. Voilà. Il n'y a pas de micro, donc... Thank you.
de